BFM Business présente Recherche Talent avec Laure Clauzier.
Bonjour à tous, bienvenue dans la nouvelle émission de BFM Business, une émission dans laquelle ce sont les patrons qui passent un entretien d'embauche. Ils croient en leur boîte, mais vous, talent, est-ce que vous avez envie de les rejoindre? C'est toute la question qu'on va se poser dans cette nouvelle émission. Un défi qui est lancé aujourd'hui à Bruno Bouygues. Bonjour, vous êtes le patron de GIS. Vous allez répondre aux questions de nos jeunes recrues. Le groupe GIS, c'est 700 collaborateurs sur site, 1000 dans le monde qui conçoivent des machines pourquoi, des équipements de soudage, des chargeurs de batterie, des systèmes de réparation de carrosserie. Est-ce que ça plaît aux jeunes recrues? On va leur poser la question parce que trois étudiants vont nous rejoindre. Bruno, je vous fais les présentations.
Je suis Maëva Drey, j'ai 19 ans et je suis étudiante en première année dans l'école de commerce HEC Paris. Je suis encore assez peu renseignée sur les entreprises industrielles, mais c'est un domaine qui m'attire pour de potentielles perspectives d'avenir.
Bonjour, je suis Samuel Marfranchard, étudiant à Centrale Supélec et président de Junior Centrale Supélec, la plus grande junior entreprise ingénieur de France. Le groupe GIS, pour moi, c'est un acteur d'innovation et de croissance de l'industrie française.
Bonjour, je suis Merlin Châtelier, j'ai 20 ans et je suis étudiant à Schema Business School. Je suis également président de la junior entreprise Schema Conseil Group, étendue sur 3 antennes en France, une au Brésil et une aux États-Unis. Pour moi, le groupe GIS, c'est avant tout un groupe industriel français et pro-européen qui permet la réindustrialisation de la France et permet aussi à la France un rayonnement planétaire grâce à sa présence dans 130 pays.
Et voilà, Merwan, Maëva et Samuel, bonjour à tous les trois. Merci d'être sur le plateau de BFM Business. Vous avez travaillé un petit peu tous les trois.
Oui.
Vous n'êtes pas venus les mains vides. Vous avez regardé ce que c'est que le groupe GIS.
Ça a intéressé.
Alors avant que vous posiez toutes vos questions à Bruno, Bruno, il faut nous vendre la boîte. C'est une boîte d'ingénieurs, c'est quoi? Qu'est-ce qui peut donner envie de vous rejoindre?
Bonjour Laure, donc GIS c'est bien sûr un groupe d'ingénieurs, de techniciens, de docteurs. Donc on conçoit des machines. Alors c'est sûr qu'on a une image un peu poussiéreuse en France du monde de la machine. On voit de l'électromécanique, alors qu'aujourd'hui les machines c'est le monde de l'électronique, c'est le monde du logiciel, c'est le monde de la connectivité, c'est le monde de l'intelligence artificielle. Et on fait face à des challenges exceptionnels. On est en forte croissance et on a besoin de beaucoup recruter, notamment des ingénieurs. Donc ça tombe bien, il y en a plein devant moi. Donc je vais me battre pour essayer de les séduire.
On a trois très beaux profils. Alors on va commencer avec vous, Merwan. Quand vous entendez machine-outil, ingénieur, ça vous inspire quoi? Ça vous donne envie de rejoindre Bruno?
Ça me donne envie. Je vois aussi une présence dans plusieurs pays, comme je disais. Au sein de ma junior entreprise, nous sommes très axés international et business international. Et pour pouvoir justement travailler avec différents environnements, différentes cultures, moi ça me parle.
L'international, Bruno, c'est surtout la Chine.
Alors aujourd'hui, on a une unité de production en Chine. On a des filiales commerciales dans 4 pays, Angleterre, Allemagne, Italie et Espagne. Et on distribue nos produits dans 130 pays. On a un département export de 38 personnes, on parle 18 langues. Et là aussi, on a besoin de talent, puisqu'il faut continuer à grossir.
Tout le monde parle anglais, au minimum.
Oui, bien sûr.
Couramment. Aller bosser en Chine, ça vous dit à tous les trois?
C'est pas forcément ce qui donne le plus envie, la Chine, personnellement en tout cas.
Bon, eh ben, y a Laval, sinon. Vous pouvez aller travailler à Laval, Maëva. Laval, c'est sympa.
La Toscane française, il paraît.
Merci, elle a bien retenu. C'est la Toscane française, exactement, la Mayenne.
Bon, et vous, Samuel, qu'est-ce qui vous intéresse dans le profil du groupe GIS?
Dans le profil du groupe GIS, ce qui m'intéresse, c'est la créativité et le management industriel derrière la production, justement, de machines, comme on le dit, plus anciennes par rapport à ce qu'on entend aujourd'hui quand on parle d'intelligence artificielle et de nouvelles technologies.
Alors c'est parti, on commence notre entretien de recrutement. Vous avez Bruno, qu'est-ce que vous avez envie de lui demander en premier? Qui veut commencer? Maëva, je sens que c'est vous.
D'accord. Alors, bon, moi je ne m'y connais pas encore assez en management pour poser des questions extrêmement précises, étant encore en première année d'études d'école de commerce. Mais connaissant un petit peu les enjeux autour de ce domaine-là, qu'est-ce que vous proposez comme politique de formation pour inciter les jeunes à vous rejoindre aujourd'hui?
Alors, quand je regarde un peu le site avant de venir, je suis allé regarder sur la partie RH du site. Donc aujourd'hui,
vous avez regardé votre propre site?
Oui, je suis allé voir sur la partie RH du site pour d'abord savoir combien on avait de jobs ouverts. Donc on a une centaine de jobs ouverts, 60 pour l'unité française, et puis pour l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne et la Chine et l'Angleterre, on en a à peu près une quarantaine. Donc on va recruter à tous les niveaux. Les talents, ce qu'on aime beaucoup chez GIS, c'est utiliser Business France et les faire commencer à l'étranger via des programmes de type VIE. Donc en ce moment, on a une vingtaine de VIE qui sont ouverts pour l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre. En Chine, on fait plus attention, c'est un pays plus difficile, il faut parler couramment chinois, les visas étaient très difficiles à obtenir. Donc pour l'instant, on a laissé les VIE sur le marché européen. Ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, lorsque les collaborateurs ont un certain nombre d'années d'expérience, eh bien, on fait venir des coachs, des formateurs extérieurs. Les collaborateurs suivent des formations professionnelles. Par exemple, en ce moment, l'Allemagne, l'ensemble du management allemand, c'est une formation de management dans une école à Aix-la-Chapelle, où on est basé.
Dans 10 minutes, on débriefera Bruno Bouygues pour savoir s'il vous a convaincu. Puis après, Bruno Bouygues, vous débrieferez
bien sûr,
les jeunes
bien sûr,
pour savoir
bien
si
sûr,
ça vous a fait changer ou fait évoluer sur votre point de vue. Vous posez cette question formation, Maëva, parce que vous vous dites je ne vais pas faire le même boulot toute ma vie.
En fait, aujourd'hui, je sais que moi-même, je ne suis pas une connaisseuse en termes d'industrie. C'est un domaine que les jeunes connaissent très peu, je pense.
Donc vous attendez que la boîte vous forme?
C'est plutôt. Oui, c'est un objectif de se dire qu'en entrant dans une boîte, c'est pas là que s'arrête ma formation. C'est une sorte d'apprentissage en continu aussi. C'est un objectif, oui, dans le domaine professionnel.
Je pense que c'est l'atout extraordinaire qu'a l'industrie en général. Quand on regarde GIS aujourd'hui, il y a une trentaine de services différents. Donc en fait, on voit que les talents, ils ont des carrières aussi bien verticales qu'horizontales, et ils passent par de la recherche, de la production, de la qualité, du commercial, du management, et en fait, ce qui est important, et tu l'as dit, c'est d'avoir une carrière la plus riche possible. Et mon sentiment à l'actuel, dans les boîtes industrielles qui ont beaucoup de technologies numériques, en fait, c'est un endroit idéal pour des jeunes, puisque vous avez la production, la qualité, le commerce, et vous avez la techno. Donc, en fait, ça vous fait une carrière ultra riche.
On peut changer de métier quand on en a marre. Merwan, qu'est-ce que vous voulez demander à Bruno Bouygues?
Revenir aussi sur la géopolitique aujourd'hui des métaux rares. Quand on écoute des journalistes comme Guillaume Pitron, on est en guerre. Je suis pas sûr que le mot guerre soit vraiment approprié. Néanmoins, aujourd'hui, quand on voit les métaux rares qui sont nécessaires, par exemple pour refaire des batteries, les entretenir, etc., on voit que la Chine, on est dépendant à 50% de leurs imports. Aujourd'hui, une entreprise comme GIS, comment on fait pour être indépendant? Comment on fait pour promouvoir l'Europe? Comment on fait pour promouvoir aussi la France dans l'Europe?
Il y a beaucoup de questions, Bruno, mais ils ont travaillé.
Il y a beaucoup de questions. Donc, au niveau des métaux rares, j'ai une exposition indirecte, puisque je n'en consomme pas moi-même. En revanche, je consomme des semi-conducteurs qui en consomment. Et donc, là, il y a véritablement eu une prise de conscience européenne avec énormément d'investissements sur deux phénomènes. Premièrement, l'installation d'usines fabriquant des semi-conducteurs sur le territoire. Et deuxièmement, des programmes de recherche pour s'affranchir de certains métaux rares sur lesquels on était dépendant. Donc là, je pense qu'on a 20 à 30 ans devant nous pour retrouver notre autonomie. Ça ne va pas se faire en quelques mois. Après, quand tu parles des batteries, donc moi je ne suis exposé de façon indirecte puisqu'on fabrique des chargeurs et pas des batteries. Donc on est encore une fois dans les semi-conducteurs. Je pense que sur les batteries, on va avoir une accélération très forte des technologies hors lithium. Et donc on va retrouver sur des technologies plutôt à base de graphène, et ça on le sait le faire en Europe. Donc encore une fois, que ce soit sur les semi-conducteurs comme sur les batteries, je pense qu'on aura une indépendance européenne sur ces sujets à horizon 20-30 ans. Donc votre génération la verra.
Merwan, si vous posez cette question, c'est parce que pour vous, la question de la souveraineté européenne et française, dans le choix d'une entreprise, elle est importante.
Pour moi, elle est fondamentale. Et puis, on connaît des moments de crise. On l'a vu avec la crise du Covid, tout simplement. Et que la Chine n'a pas les mêmes politiques que nous, que ce soit des valeurs démocratiques ou même des valeurs économiques qu'elle souhaite représenter. Dans des moments comme ça, on se sent obligé de faire attention à nos valeurs et de ne pas trop nous exposer. Donc oui, moi, ça compte pour moi, que nos entreprises restent européennes.
Eh bien, écoutez, Samuel, qu'est-ce que vous avez envie de demander à Bruno?
Oui, on parlait tout à l'heure de richesse de parcours, de perspective d'évolution. Je voudrais savoir, dans le groupe GIS, si on rentre dans votre groupe en tant que nouvel employé, quelle place est laissée à la créativité et à l'initiative de chaque salarié?
C'est une bonne question. Je pense qu'au démarrage, il y a toujours une phase d'apprentissage. Je pense qu'on peut bien créer, on peut bien innover une fois qu'on a bien copié déjà ce qui se passe. Innover lorsqu'on n'a pas un socle et une culture commune d'entreprise, c'est difficile. Quand je vois les plus grands talents, ceux qui tirent l'entreprise en avant, je rappelle que il y a 6 ans, l'entreprise c'était la moitié de la taille d'aujourd'hui. Et mon ambition, c'est encore de redoubler en 6 ans. C'est pas moi qui ai poussé l'entreprise, c'est l'ensemble des talents qui sont à l'intérieur du groupe qui ont chacun poussé. Mais ces talents, ils ont passé 5-6 ans à apprendre, à construire, à comprendre justement comment utiliser leur créativité comme moyen de faire avancer l'entreprise. Donc je pense qu'à ta réponse, il faut être patient au démarrage. Il ne faut pas tuer, au contraire. Il faut d'abord apprendre la culture d'entreprise, apprendre à travailler dans le collectif. Et à partir du moment où on a compris et on a les clés, là on peut commencer à accélérer. Et ça prend du temps.
C'est intéressant la question, être patient au démarrage. Parce que très souvent on dit, cette génération de jeunes aujourd'hui, elle veut tout de suite quand elle rentre dans la boîte, elle n'a pas le temps, elle ne veut pas se former, faire des jobs qui ne sont pas ultra intéressants au début. Alors que nous, les vieux, on a fait des trucs pas très intéressants au départ. C'est-à-dire que vous vous dites quoi quand vous rentrez dans l'entreprise ? Je veux que ça aille vite et je veux qu'on me laisse ma créativité ?
Je pense que c'est surtout lié au cadre dans lequel on va évoluer. On a envie de se faire plaisir dans son métier et donc garder son esprit libre d'imagination dans tout ce qu'on fait au quotidien.
Et vous voulez pouvoir être libre, par exemple, de bosser pour des assos ou d'être entrepreneur à côté ?
Je pense que bah, y a le métier qui prend une majorité de notre vie. Et ensuite, après, il faut évidemment les loisirs et un équilibre. Et après, ça fait partie du cadre principal de la vie en entreprise.
Ça, Laure, chez Gis, on est très vigilants. L'heure, c'est l'heure. On veut que les cadres aussi partent quand les horaires sont terminés pour qu'ils puissent vivre une deuxième vie, une vie familiale d'abord, une vie sportive, une vie associative.
C'est-à-dire que vous ne les poursuivez pas le week-end avec des mails et des comptes rendus à faire à 18h le week-end ? Je vérifierai, Bruno.
Non. J'envoie quelques mails, moi, personnellement, mais la réponse arrive tranquillement le lundi. Ce n'est pas le sujet. Le week-end, j'ai un peu plus de calme. Mais en semaine, on souhaite que les cadres retrouvent leur famille, retrouvent leur activité hors travail. Il y a un temps pour le travail, et là, il faut être performant. Et ne jamais oublier que la performance d'une entreprise, ce n'est pas la performance de la somme de ses individus, c'est une performance moyenne. Et cette performance moyenne, elle vient de la capacité à chacun d'entre nous à créer une compacité autour d'un projet commun. C'est pour ça que je dis qu'au début, il faut prendre un peu de temps. On a fait plein de choses quand on a commencé tous les deux dans nos carrières qui n'étaient pas forcément percutants, mais ça nous a donné du temps pour apprendre la culture de l'entreprise. Et lorsqu'on a eu une capacité à avoir des responsabilités, on connaissait les leviers pour faire accélérer. Je pense que c'est une phase qui est obligatoire aujourd'hui pour tout le monde si on veut aller vite.
Maëva, vous voulez bosser dans une boîte qui est active sur les questions de l'environnement. Est-ce que, par exemple, le groupe GIS, vous vous dites, c'est une boîte d'ingénieurs, c'est intéressant, ça répond à cette question ?
Oui, aujourd'hui, justement, c'est une question un peu qui va revenir sur le thème qu'a évoqué Merwan, sur les métaux rares. Vous travaillez dans l'industrie, donc en termes de processus de production, de matériaux utilisés, d'exportation. Aujourd'hui, comment est-ce que vous agissez pour réduire votre empreinte carbone à l'échelle de l'entreprise ?
C'est une très bonne question.
Ils ont de très très bonnes questions.
Oui, vous les avez bien choisies.
Ouais.
Alors, dans le business model de GIS, et ça c'est véritablement sous l'égide de mon père, il a souhaité verticalement intégrer les processus de fabrication. Donc ce qui est un peu exceptionnel chez nous, c'est que quand on fabrique une machine, tout est fabriqué sous le même toit. Ça veut dire que nous n'avons pas de bilan carbone de fabrication des semis ouvrés qu'il faut conditionner, transporter, redéconstitutionner. Tout est fait sous le même site, un peu comme un marché, et ça part à l'assemblage, au test et à l'entrepôt. Donc en fait, on a finalement une forme d'exigence et d'exemplarité en fabriquant tout nous-mêmes. Premier sujet. Deuxième sujet, dans les sujets de la RSE, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas s'acheter ce que je vais appeler des indulgences. Il faut choisir des batailles et être bon sur les batailles qui sont importantes. Je vais vous en donner une actuellement. J'ai été très marqué par une commande qu'on a prise dans les îles au sud de l'Espagne, où le transporteur nous a dit « Nous ne pouvons plus envoyer vos produits parce qu'ils demandent la description de chaque packaging ». Parce qu'ils sont une île, il faut recycler tous les plastiques. Et donc, ils ont besoin d'avoir le marquage. Je me suis dit, ça, c'est un bon sujet pour nous. C'est un sujet sur lequel on est faible. On emballe, on fait, mais on ne trace pas, on n'est pas capable à chaque commande de donner le poids, la dénomination, la quantité de packaging, d'emballage et de suremballage. Et bien, ça, c'est une bataille que je souhaite mener avec les collaborateurs dans les deux prochaines années.
Il nous reste 3 minutes pour cuisiner Bruno Bouygues. Merwan, est-ce que vous avez une question ?
J'ai une autre question, oui, concernant la machine-outil, on va dire, et l'industrie assez classique. Comment vous faites face aujourd'hui à l'intelligence artificielle et au monde du big data ?
Oh, c'est pas une question, ça.
Alors, déjà, je vais y répondre par l'âge moyen de l'entreprise. On a plutôt tendance à recruter des gens sortis d'école. Donc, l'âge moyen d'entreprise, c'est 31 ans. Donc, on a une population qui est jeune, très sensible à ces sujets. On fabrique en ce moment entre 2 et 3 000 machines par jour. D'ici 3-4 ans, la moitié de ces machines seront connectables. Donc, déjà, la population me pose beaucoup de questions. Et je leur ai dit, l'intelligence artificielle, c'est assez simple. On va commencer par faire des expérimentations. Donc, la première expérimentation qui a lieu en ce moment, c'est la mise en place d'un moteur de recherche à base d'intelligence artificielle sur notre site Internet qui va arriver dans les prochaines semaines. On pense que c'est intelligent et ça va permettre à nos clients de trouver les produits de façon plus simple. On a aussi, au niveau de tous les départements de traduction, mis en place des outils de traduction à base d'intelligence artificielle. Auparavant, en fait, même si on parle 28 langues, on s'est dit, ben pourquoi pas, avec l'intelligence artificielle, avoir tout en 100 langues ? Pourquoi ne pas avoir toutes les langues du monde ? Donc, en fait, on est en train de réfléchir à comment utiliser les langues parlées par nos collaborateurs et ajouter, avec la machine, en fait, d'autres langues en plus. Donc, en fait, on va prendre plusieurs batailles, les unes après les autres, pour apporter de la valeur à nos clients, calmement. Mais attention, l'intelligence artificielle dans le monde industriel, on passe du tournevis au tournevis électrique. Mais il faut quand même avoir les tournevis. C'est-à-dire que on gagne en productivité. C'est tout.
On va débriefer dans quelques instants Bruno Bouygues, tous les quatre. Il va nous écouter en coulisses, Bruno, pour savoir ce que vous avez pensé de sa prestation. Mais avant, je ne peux pas vous laisser rejoindre les coulisses. Bruno, avant de vous poser une question de recrutement, quelles sont vos qualités et vos défauts ?
De l'entreprise ou personnel ?
Non, les vôtres, personnellement.
Ah, personnellement. Alors, je suis quand même très exigeant.
C'est un défaut ou c'est une qualité, ça ? C'est pareil, vous faites les faux défauts qui sont des qualités.
Non, c'est quand on est exigeant, on est exigeant avec soi-même, on est exigeant avec les autres. Donc, en fait, ça impose un rythme quand même relativement soutenu. Et donc, j'ai appris à être un petit peu plus cool pour pouvoir finalement accepter d'avoir une vitesse moyenne qui ne soit pas forcément la vitesse moyenne du patron. Je pense aussi que ça fait presque 20 ans, je vais bientôt fêter ma 20e année chez GIS, je commence à prendre conscience de la valeur de la diversité. On parlait d'innovation, on parlait d'idées, de regards différents, de regards nouveaux. La diversité aujourd'hui dans l'entreprise, de par la nécessité par les langues et par les compétences, crée un vivier exceptionnel pour la réflexion. Je trouve que GIS n'a jamais été aussi innovant qu'en ce moment. Et je pense que ça vient aussi de notre capacité à avoir attiré des talents de plein de pays, de plein de couches sociales, et d'avoir un melting pot exceptionnel.
Bruno, vous allez rejoindre les coulisses. Moi aussi, j'essaye d'être cool, mais alors franchement, c'est beaucoup, beaucoup de travail.
On n'est pas la bonne génération pour être cool. On ne nous a pas appris.
Difficile. Vous allez rejoindre les coulisses, et nous, on va débriefer.
Recherche talent sur BFM Business.
Alors, c'est l'heure de notre débriefing. Tous ensemble, Bruno Bouygues va écouter ce qu'on dit. Alors, soyez quand même corrects, mais vous êtes des gens très corrects. On l'a vu depuis le début de l'émission. Vous avez travaillé, vous aviez des super questions. Vous pourriez franchement être journaliste à BFM Business si jamais vous cherchez un autre boulot que dans l'industrie. Qu'est-ce que vous avez pensé de Bruno Bouygues ? Je commence avec vous, Samuel.
Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est surtout l'esprit familial de l'entreprise, l'esprit français, européen également, qui, je pense, va attirer de nombreux étudiants français à travailler dans ce type de secteur.
C'est-à-dire que là, vous n'avez pas fini votre école et tout ça, mais si vous proposez un CDI demain pour un poste, ça vous intéresse ou pas ?
Ça peut m'intéresser complètement, l'industrie est un secteur qui m'intéresse beaucoup.
Super, on a déjà un point. Maëva, qu'est-ce que vous avez pensé de Bruno Bouygues ?
Bien sûr, les questions que j'avais par rapport aux enjeux écologiques et sur la formation au travail, je l'ai trouvé très honnête et très concret dans ce qu'il m'a dit. C'est-à-dire que j'aurais eu peur de réponses un peu abstraites, un peu fourre-tout. Mais au contraire, là, il a donné des détails et ça m'a plutôt convaincue de m'intéresser plus encore à son entreprise.
Quand il vous dit l'âge moyen de l'entreprise, c'était à votre question, Merwan, sur l'intelligence artificielle, c'est 31 ans. Vous dites c'est vieux ou c'est bien, c'est pour moi, ça vous parle ou pas ? C'est vieux 31 ans ou c'est jeune ?
31 ans, maintenant qu'on finit nos études à peu près 25-26 ans.
C'est une boîte de jeunes.
Une boîte, oui, relativement jeune, hein, mine de rien.
Merwan, vous tous les deux, là, sur les métaux rares, avec Maëva, vous étiez quand même très, très ciblés. Non, mais c'est bien. Hein. Il vous a convaincu, Bruno Bouygues, Merwan ?
Il m'a convaincu, déjà par son calme, quand il nous répondait. Il savait il connaissait bien son entreprise. Et ça, c'est aussi, moi, je trouve important pour un patron de bien connaître son entreprise et de savoir. Montrer qu'on connaît toutes les strates de son entreprise. Il me parlait, par exemple, du site qu'il allait refaire dans pas très longtemps. Et moi, je trouve ça franchement respectable.
Donc pareil, il vous propose un poste demain. Vous y allez? Vous allez à Laval? Vous quittez tout?
Pour l'industrie, je me poserai encore quelques questions. Mais pourquoi pas?
Maëva, vous qui étiez plutôt... vous faites aussi une licence d'histoire de l'art, je crois, à côté. Rejoindre un groupe comme GIS, ça vous dirait?
En fait, je vais vous dire que j'en aurais pas eu l'idée jusqu'ici. Ouais. Mais après l'échange avec Bruno Bouygues, c'est quelque chose que je pourrais beaucoup plus envisager maintenant. Après avoir eu un échange comme ça, en face à face, avec quelqu'un qui travaille réellement dans l'industrie.
Mais vous pensez que ça manque? C'est-à-dire que quand on fait un processus de recrutement, on se tape parfois les cabinets de recrutement, après les RH, et l'entretien un peu exécutif, on a les mains dans le cambouis, ça arrive. Parfois, on a même arrêté le processus de recrutement. Vous voyez, il a les mains presque dans le cambouis, il connaît sa boîte, et ça fait du bien. C'est-à-dire qu'en fait, il manquerait ça en début de recrutement. Pour vous convaincre, Samuel.
Un patron qui est sur le terrain, qui va avec les équipes et qui sait comment recruter, je pense que c'est important. Et je pense qu'on avait un bon exemple d'un patron qui est sur le terrain et au courant de ce qui se passe dans son entreprise.
Maëva?
Oui, tout à fait d'accord avec ce que Samuel vient de dire.
Merwan, personne ne lui a parlé salaire.
Effectivement.
N'oubliez, petite... Effectivement. Non mais c'est pas votre première question, ça n'a pas été combien on gagne, ça a été les métaux rares quand même.
Certes, mais pour revenir un peu sur la question du salaire, aujourd'hui, on cherche quand même un sens dans son job ou même son emploi. On sait qu'on va y rester assez longtemps et qu'on va devoir évoluer aussi dans la boîte. Monter en compétence, c'est peut-être quelque chose qui nous parle plus que de direct être rivé et les yeux sur les chiffres.
Vous voulez qu'on vous parle carrière, en fait, qu'on vous parle long terme. C'est ça qui vous botte. Maëva et Samuel, le salaire, ça vous intéresse pas?
Moi, je pense que ce qui m'intéresse... Dans le type de travail que je vais choisir, c'est aussi le cadre de travail, les conditions de travail. Est-ce qu'on se sent bien au bureau? Est-ce que l'entreprise pense à nous par les comités d'entreprise, etc. Donc ça compte pour moi autant que le salaire, le cadre de travail.
Eva?
En fait, au départ, moi j'ai retenu quelque chose, c'est que vous et Bruno Bouygues, vous avez parlé de commencer au travail par faire des trucs très peu intéressants.
Ouais.
Et donc avec un salaire qui peut-être va avec ce type d'activité.
Ouais.
Donc effectivement, il faut tous qu'on commence quelque part. Et je pense qu'aujourd'hui, en tant que jeune, on est plutôt prêt à accepter de commencer justement à un endroit si ensuite on a des possibilités d'évolution au sein de l'entreprise dans laquelle on est déjà.
Bah merci beaucoup à tous les trois d'être venus dans Recherche Talent. Vous avez bien travaillé. Vous aussi, si vous voulez venir interroger les patrons, vous nous envoyez un mail sur l'adresse avec vous@bfmbusiness.fr ou sur LinkedIn. Ça marche très très bien sur LinkedIn. On va débriefer vous maintenant avec Bruno Bouygues. Merci à tous les trois.
Recherche Talent sur BFM Business.
Et c'est notre moment du débrief avec Bruno Bouygues. Bruno Bouygues, vous avez vu ces trois étudiants qui avaient bien travaillé, même beaucoup travaillé. Leurs questions, franchement, c'était assez précis. Qu'est-ce que vous en avez pensé?
J'ai trouvé que c'était des étudiants talentueux. Ce qui était très agréable, c'est que d'abord, ils étaient excessivement bien élevés, respectueux. Et ce qui m'a fait plaisir aussi, c'est de voir trois personnes qui avaient la volonté de s'inscrire à l'intérieur d'une entreprise et de faire carrière.
Oui.
On en parlait un peu à la pause, mais on voit une nouvelle génération d'étudiants qui ont envie de faire carrière. Un peu comme si le balancier, où il fallait changer tous les 2-3 ans, on revenait...
Mais ils veulent que vous les aidiez, il faut les former.
Ils veulent une vision, en fait, on le voit bien. Il faut donner une vision, il faut former, il faut créer des passerelles qui ne sont pas forcément évidentes. Mais si vous avez la vision, si vous avez la volonté, je pense qu'ils vous suivent.
Vous avez vu, ils ne vous ont pas demandé combien on gagne. Ils vous ont parlé métaux rares.
Oui, j'étais un peu surpris, mais je peux les comprendre. Il y a tellement de jobs différents, à tellement de différents niveaux de salaire. Je pense que leur attitude est bonne. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est prendre un premier job, montrer ce dont on est capable. Et là, les entreprises qui performent, bien l'ascenseur social marche à plein régime.
Et là, est-ce que vous ne vous dites pas, quand vous voyez à quel point le sens... du travail est important dans je veux une boîte qui fabrique en France, je veux pas qu'il fasse n'importe quoi dans ses relations avec la Chine et quel est l'impact sur l'environnement. Est-ce que ça vous fait changer de mindset vis-à-vis de votre stratégie de recrutement?
Alors c'est les trois sujets sont arrivés chez nous il y a 4-5 ans. C'était des sujets qui étaient un peu abscons en fait avant le Covid, et en fait avec le Covid on a senti une intensification d'un désir de compréhension de l'empreinte de l'entreprise sous des dimensions qui n'existaient pas. Vous avez parlé de la RSE, vous parlez de la géopolitique. C'est des sujets auxquels, finalement, on n'avait pas à s'exprimer en tant que chef d'entreprise. On parlait performance.
Oui, bien sûr.
Et aujourd'hui, en fait, la performance, c'est multicritère. Et c'est intéressant puisque ça nous oblige à nous interroger individuellement et collectivement, moi en tant que chef d'entreprise, mais aussi tous mes collaborateurs.
Vous êtes le chef du sens maintenant. C'est à vous de donner le sens, l'envie et la direction.
Non, je ne crois pas être le chef du sens. Je pense que c'est plutôt cette nouvelle génération qui a un engagement fort et les organisations doivent, étape par étape, dans le calme, essayer de donner des réponses et des directions. Je le vois, par exemple, sur l'environnement. Les premiers collaborateurs qui m'ont fait des remarques, c'était il y a 7-8 ans. Et on a commencé à s'y mettre véritablement de façon assez intensive il y a 5-6 ans. Donc ça nous a pris une à deux années pour comprendre qu'il y avait un désir collectif, que le collectif avance dans une direction auquel on n'était pas habitué.
Vous, ce que vous recherchez en priorité, c'est des ingénieurs électroniciens, électroniques ?
Alors en ce moment, il y a une pénurie, une difficulté, des programmeurs, des ingénieurs électroniques, du commercial, de la qualité. Mais dans l'électronique, en ce moment, on cherche des techniciens, des ingénieurs, des docteurs, beaucoup.
Bon, allez-y, envoyez vos CV au groupe GIS. Vous allez sur le site de l'entreprise voir, il y a une centaine d'offres d'emploi qui sont actuellement ouvertes. Merci beaucoup Bruno Bouygues de vous être prêté à cet exercice. On se retrouve la semaine prochaine, de nouveaux étudiants et un nouveau patron qui passera un entretien. À bientôt.
Recherche talent sur BFM Business.